quelques années. M'avait montré qu'il m'avait ébloui par sa grandeur, sa puissance, sa douceur, sa force. Le Seigneur m'avait donné cette vision de cinq choses qui découlent de la croix de Jésus. J'ai vu comme la croix de Jésus, sans, pas un crucifix, là, la croix toute nue, qui rappelle le symbole du sacrifice de Jésus, c'est sûr, mais il n'est plus sur cette croix. Et de cette croix, il y avait cinq choses qui se dégageaient de cette croix. La première chose qui se dégage de la croix de Jésus-Christ, c'est la vie. Parce que sans avoir passé par cette croix, nous sommes tous morts. Donc nous avons besoin de venir à cette croix pour recevoir la vie. La vie éternelle. Donc, la croix dégage la vie pour ceux qui sont morts dans leur faute et dans leur péché. La vie. Sans cela, nous sommes morts. Condamnés à mort éternellement dans l'enfer, près du diable. L'enfer existe et le diable aussi. Deuxièmement, la deuxième chose qui se dégageait de cette croix, c'était la lumière. C'était une croix lumineuse. Et cette lumière-là qui se dégage de la croix de Jésus montre le chemin, éclaire le chemin à tous ceux qui s'approchent de cette croix. La lumière se fait. Sans cette lumière, nous marchons dans les ténèbres. Il nous faut la lumière de la croix pour comprendre, pour savoir où nous allons. Sinon, nous sommes dans les ténèbres. Troisième chose qui se dégage, et ça j'ai trouvé magnifique, de cette croix, c'était une musique. Une musique céleste se dégageait de cette croix. Cette croix, elle chante. Elle dégage une musique céleste, merveilleuse, pour tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont déprimés, tous ceux qui souffrent de solitude, tous ceux qui souffrent de crainte et d'angoisse, tous ceux qui souffrent de tristesse à cause de leurs difficultés, de deuil et autres. Cette musique céleste, quand elle vient, qui se dégage de la croix et qui vient envahir ton âme, t'apaisera de toutes ces souffrances, mettra un baume sur ton cœur. C'est une musique que personne n'a jamais entendue, c'est une musique qui est glorieuse, qu'on n'entendra que dans le ciel. Et qui n'a rien à voir avec aucune musique de cette terre. Aucune. Elle n'est pas comparable à aucune musique de cette terre. Quatrième chose qui se découle de cette croix. De cette croix coulait une huile, de l'huile. Et j'ai trouvé ça formidable, parce que c'est l'huile qui guérit les malades. Parce qu'à la croix, le Seigneur a porté toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Et dans les meurtrissures de Jésus, il est dit, nous avons reçu la guérison. Et l'huile est le symbole de cela aussi. Donc, une huile sainte et céleste se dégage de cette croix, qui coule dans nos articulations, qui coule dans nos cellules, qui coule dans notre être mortel et qui est capable de d'ôter toute maladie. Et cinquième chose qui se dégage de cette croix, c'est une puissance qui chasse toutes les puissances ténébreuses, qui veulent rôder autour de nous et qui veulent accaparer notre âme, la battre, la rendre esclave. C'est le diable, c'est ce qui se dégage du diable. Donc la croix est victorieuse sur le diable et toutes ces puissances infernales qui sont là, dans ce monde, et qui agissent. Et nous avons besoin de cette croix céleste pour nous libérer de l'esclavage, de notre ennemi, qui cherche toujours à nous mettre des embûches, qui cherche toujours à nous faire du mal, qui cherche toujours notre destruction. Mais auprès de la croix, nous avons l'assurance d'être bien protégés. Parce que le Seigneur nous a aimés jusqu'à ce point-là. Il a payé ce prix-là, fort, fort, pour nous libérer de tout ça. Et tout ça, ça découle de la croix de Jésus-Christ. Oh, combien nous l'aimons. Combien nous l'aimons. Et le Seigneur m'a donné cette pensée aussi. À ce moment-là, la plus grande manifestation de mon amour, de ma compassion et de ma puissance est la croix de ton Sauveur Jésus-Christ. Le dernier ennemi à vaincre, qui restait à vaincre, fut la mort. C'était notre dernier ennemi, la mort. Et parce que mon Fils Jésus a vaincu la mort, et si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Alors, ni la mort, ni l'enfer, ni rien dans le monde ne pourra vous séparer de mon amour, dit le Seigneur. Rien, plus rien ne peut nous séparer du Seigneur si nous passons la croix. Plus rien. Et parce qu'il a vaincu la mort, le Seigneur nous dit, vous vivrez éternellement avec moi dans le ciel. Donc si on meurt, on ne meurt plus. On s'en va juste de l'autre côté. On s'en va juste à ses pieds, juste auprès de lui. Et auprès de lui, c'est la gloire. Auprès de lui, c'est la paix parfaite. Auprès de lui, il n'y a plus de souffrance. Auprès de lui, il n'y a plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrance. Plus rien. C'est la paix parfaite. Approchons-nous de cette croix bénie, de laquelle se dégagent tant de choses, tant de merveilles, si puissantes, si merveilleuses.
Seigneur, merci. Merci pour cette prédication de la croix. Parce que la croix a un message. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu.
C'est vrai, oui, c'est vrai.
Seigneur, que toujours
c'est tellement vrai.
Ces réalités s'impriment dans notre être, afin que nous puissions te glorifier et marcher de victoire en victoire et t'honorer dans notre vie. Oui, merci pour cette croix glorieuse et cette sainte scène que nous prenons nous rappelle cet événement fondamental, essentiel pour notre salut et pour notre vie chrétienne aussi. Et nous voulons aussi nous rappeler, Seigneur, lorsque tu es venu sur cette terre, comment les choses se sont passées. Parce que là aussi, tu as un message à nous communiquer.
C'est vrai.
Nous te demandons de nous parler maintenant encore au travers de ce récit de Noël que nous avons entendu tant de fois, mais que nous voulons méditer encore sur certains points importants, afin de ne pas les oublier. Et si nous, parfois, nous les avons mal compris, aide-nous à mieux les comprendre, à oublier ce que nous devons oublier, et à mieux saisir ce que nous n'avons pas saisi. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes maintenant devant toi. Ton Esprit Saint nous éclaire et nous conduit sur le chemin de la vérité qui libère, transforme et qui nous donne cette assurance que nous sommes à toi pour l'éternité, par grâce. Merci Seigneur. Et nous allons méditer quelques instants sur le récit de Noël. J'aimerais qu'on lise ensemble Luc chapitre 2. Nous allons méditer sur le dernier verset, mais nous allons lire les premiers versets pour nous replacer dans ce contexte de Noël que nous connaissons, mais qu'il est bon de lire et de relire. Luc 2, le verset 1er jusqu'au verset 14. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire dans chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et au moment où ces paroles sont prononcées, il est dit, « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. » Alors écoutons bien ce qu'il est dit, ce qu'ils disent, parce que nous allons méditer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Nous pouvons diviser ce verset en quatre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et ensuite paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il y a donc quatre messages essentiels de la part des anges. Quatre messages essentiels. Et il est bon de voir ce que ce message veut nous dire à nous maintenant. Car ce message vient des anges, pour des conseils extraordinaires. Et nous savons que les anges, ce sont ceux qui vivent près de Dieu. Autrement dit, ce que les anges ont à dire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas par où dire. C'est quelque chose qui vient même du cœur de Dieu, de la bouche même de Dieu. Ce sont des envoyés de Dieu. Ce qui fait qu'on ne peut pas mettre en doute ce qu'ils disent. Mettre en doute ce qu'ils disent, c'est douter de Dieu lui-même. N'est-ce pas vrai? Et alors là, il y a quatre messages. Première parole, gloire à Dieu. Autrement dit, ils ont glorifié Dieu. Cela a un sens bien précis. Parce que du temps des Romains, du temps en Israël, le nom de Dieu était plutôt bafoué, rejeté. Les chrétiens étaient persécutés. Celui qui disait que Jésus est Seigneur, il mourait martyr. Il était jeté au lion.
Brûlé.
Et brûlé, et tout cela. Les premiers chrétiens, il en était ainsi. On leur disait, dis que César est Seigneur.
Ah oui.
S'il ne disait pas cela, ils savaient qu'ils allaient à la mort. Et eux, ils disaient, Jésus est Seigneur. Et ils mouraient. Gloire à Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Comme pour dire, vous avez une conception de Dieu qui n'est pas du tout correcte. Il vous faut voir les choses comme Dieu les voit. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de les vôtres, dit l'Éternel. Et aujourd'hui encore, les pensées des hommes concernant Dieu sont loin d'être en harmonie avec la pensée de Dieu, n'est-ce pas? En ce temps de Noël tout particulièrement, qui est celui qui dit gloire à Dieu? Au contraire, on maudit Dieu. On le rejette. Vous prononcez le nom de Dieu, on vous prend pour un fanatique.
Oui, c'est ça.
On vous rejette. Et si on pouvait vous crucifier aujourd'hui,
on le ferait.
Oh,
oui. Pareil.
Et dans certains pays d'ailleurs.
Ça se fait.
Ça se fait. On vous met en prison, c'est terminé.
On vous interdit.
Vous êtes aux oubliettes pour terminer. Pour finir. Et gloire à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si les anges voulaient dire Dieu. Vous ne devez pas en avoir une conception à votre image. Une conception selon la religion, par exemple, qu'on vous a communiquée. Si la religion pouvait sauver quelqu'un, dites-moi, est-ce que Jésus aurait dû venir sur la terre? Il y avait 1000 religions du temps de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Si, comme on dit aujourd'hui, « Oh, mais chacun a sa petite religion, monsieur. Ne venez pas me déranger, moi j'ai ma petite religion. » Et voilà leur conception de Dieu. Chacun a sa petite religion. On ne peut pas imposer la sienne aux autres. Laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si Jésus avait tenu compte de cela, il ne serait pas venu sur cette terre. Mais il est venu, pourquoi? Parce que la conception que la religion, quelle qu'elle soit, avait de Dieu était fausse. Et il fallait que les anges ou l'évangile qui est annoncé apporte la vraie révélation de Dieu. Et la révélation qu'il fallait entendre à ce moment-là, juste un peu au-dessus, les anges donnent le message. Ils leur disent, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie, car il vous est né dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, la première des choses que les anges voulaient communiquer, et d'ailleurs dans l'évangile de Luc, il est dit, il vous est né, vous donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Avez-vous remarqué? C'est la première des choses qu'on dit au sujet de Jésus. Ça concerne le péché. Parce que le péché est le plus grand ennemi de l'homme. Et d'une manière générale, la religion en général, le péché, c'est pas quelque chose de trop grave. On pêche, on confesse, on est pardonné, on recommence. Il y a même des hommes qui peuvent pardonner les péchés. Mais c'est Jésus le Sauveur, seul qui peut pardonner les péchés. C'est d'accord avec moi? Et aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent pardonner les péchés si vous allez leur confesser vos péchés. Il n'y a qu'un Sauveur.
Eh oui,
c'est Jésus qui seul peut pardonner les péchés. C'est donc à lui qu'il faut aller. Et c'est là le plus grand ennemi dans notre vie, le péché. Parce que c'est le péché qui nous détruit moralement, spirituellement, et même certains physiquement. Si ce n'est, si on ne se convertit pas, cela nous détruit éternellement et nous sépare de Dieu pour toujours. Donc, gloire à Dieu. Dieu, nous devons le connaître comme il est connu au ciel et non pas selon la conception qui existe sur cette terre. Et si on le connaît vraiment comme Dieu est connu dans le ciel, alors on ne pourra que dire gloire à Dieu. Pour un tel Dieu, mais un tel Dieu mérite d'être loué. Tandis qu'aujourd'hui, on n'ose même pas prononcer ça. Tous les malheurs viennent de Dieu. Si Dieu existait, vous avez entendu, encore moi, même tous les malheurs qui arrivent, c'est finalement la faute même de Dieu. Ils sont loin de dire gloire à Dieu. Au contraire, ils disent malheur à nous, c'est malheur à toi si tu crois en Dieu. Il est à l'origine de tout le mal, presque. Qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu? Dans ce monde actuel, vous voyez que la conception que l'humanité a de Dieu, ils sont loin de dire gloire à Dieu, vous êtes d'accord? Et pourtant les anges viennent avec ce message gloire à Dieu, comme pour dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette terre, ce n'est pas avec Dieu qu'il faut voir la faute.
Sûr, oui.
La faute est en moi, en nous, en chacun, en nous, dans l'homme.
Et l'homme qui décrit tout.
C'est à cause de nous, c'est pas Dieu. Au contraire, il est l'être parfait. Il nous aime. Il envoie son Fils justement
pour nous délivrer de ce péché qui nous détruit et qui fait que nous nous détruisons mutuellement.
Ouais.
L'homme est un loup pour l'homme.
Ouais.
Et on met tout ça sur la faute de Dieu. N'est-ce pas une tragédie? Mais combien ne viennent pas au Seigneur à cause de cette fausse conception? Ah, si j'avais... toutes les difficultés que j'ai, tous mes problèmes, c'est finalement à cause de Dieu. Parce que s'il m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis ceci. Il n'aurait pas permis cela. Voyez, comme c'est subtil. C'est toujours la faute de Dieu quelque part. Il ne peut jamais dire gloire à Dieu. Mais l'ange vient, gloire à Dieu. C'est le Dieu que vous prétendez connaître. N'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est autrement. Si tu le connais vraiment, tu ne pourras faire qu'une chose, le glorifier. Parce qu'il n'y a aucune iniquité en lui, aucune injustice en lui. Si le mal est là dans ce monde, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de la désobéissance, de la rébellion de l'homme. C'est l'homme qui s'est créé cet état-là. Parce qu'il est en rébellion contre Dieu. Il est en guerre contre Dieu. Et voilà pourquoi il est dans ce malheur. Alors une première chose, un premier message que le ciel veut nous donner, mes amis, à vous comme à moi, nous devons veiller à avoir la bonne conception de Dieu et ne jamais mettre quoi que ce soit de faux en Dieu et au fond de notre cœur, penser que Dieu n'est pas juste, penser que Dieu ne m'aime pas vraiment, penser que Dieu... Enfin, trouver quelque chose finalement avec Dieu. C'est la plus grande ruse du diable. Ah, le diable, il est bien content. C'est ça. Quand tu as ces pensées-là, il vient. Oh, voilà, oui. Comme c'est lui qui est à l'origine de tout. Là, il oriente tout ça vers Dieu, il est tout content. Oui, vas-y, c'est pas toi. C'est lui, là-haut.
C'est pas moi, c'est lui.
Et des multitudes ont cru cela. Il fallait que ça tranche. Gloire à Dieu. Ceux qui vivent près de Dieu ne peuvent que le glorifier et savoir qu'il est parfait dans toute son œuvre. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La perfection était en lui. Et il a pu dire, qui d'entre vous me convaincra de péché? Même ses ennemis ne pouvaient pas trouver en lui quelque chose de faux, n'est-ce pas vrai? Et si nous connaissons vraiment Dieu, mes amis, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons que le glorifier. Que le glorifier comme les anges. Et si on ne le glorifie pas, c'est parce qu'on n'a pas une connaissance exacte de sa personne. Gloire à Dieu. Quel message. Dieu nous aime. Et dans le cas précis, il nous envoie son Fils. Qu'on appellera Jésus. Car c'est lui. Lui, personne d'autre. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aujourd'hui, est-ce qu'on entend parler de péché? C'est plus à la mode. C'est du Moyen-Âge. C'est fini, il ne faut surtout pas parler. Et parce qu'on ne veut pas en parler, et voilà, le péché continue à faire son œuvre dans le cœur des hommes, dans les nations. Et c'est la destruction, car le péché détruit. Le péché, c'est avant tout la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est faire ce que je veux, au lieu de faire ce que Dieu veut. C'est ça le péché. Il y en a beaucoup qui ont fausse conception même du péché. On pense, ah oui, moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait de grosses choses mauvaises, pardon. Moi je suis gentil, je ne suis pas mauvais. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait des choses graves, je n'ai pas été en prison. Alors, en plus, on se dit, tiens, j'ai même un petit diplôme, j'ai une bonne réputation, je suis bien. C'est pas ça le péché. C'est bien de ne pas faire ces choses naturellement. C'est bien de ne pas aller en prison, de ne pas tuer, de ne pas voler, très bien ça. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Et le péché, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les fruits du péché. Mais la racine du péché, c'est quoi? C'est moi. Je fais ce que je veux. Dans le prophète Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 53, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Soulignez bien ce passage. Regardez. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà le péché. Autrement dit, chacun fait ce qu'il veut.
C'est Ésaïe.
Ésaïe 53.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ce que je veux. Qui n'a pas dit un jour? Qui n'a pas dit un jour? Je fais ce que je veux. Vous n'avez rien à me dire. Je fais ce que je veux. Eh bien, c'est ça le péché. C'est ça. Tu as montré là ta nature pécheresse.
Ésaïe 53, vous avez trouvé le verset? Ésaïe 53, c'est un point important. Donc
6,
voilà. Nous étions, voilà, c'est ça exactement. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est ça le péché.
Ou ce qui lui semblait bon dans une autre version, ouais, mais c'est la même chose.
Oui, c'est ça. Ça. Autrement dit, le péché, c'est ça, c'est faire ce que je veux au lieu de faire ce que Dieu veut. Parce que nous n'avons pas été créés, chacun d'entre nous, pour faire ce que nous voulons. C'est Dieu qui nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui, que nous puissions le glorifier, l'aimer, le servir, le refléter. On a été créés pour ça. C'est comme un poisson, il a été créé pour être dans l'eau. Si vous sortez de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire, le poisson?
Il va
mourir. Ça va pas. Même si vous êtes là, vous le mettez du shampoing dessus, tout ça. Mais vous n'arrivez pas, ça ne marchera pas. Mais pourquoi tu n'es pas content? Ça m'a gesticulé un temps, mais après ça va mourir. Mais pourquoi il est là? Ah oui, mais moi je fais ce que je veux, de toute façon, moi je fais ce que je veux. Je ne veux pas aller dans le bois. Non, non, pas d'accord, moi je veux rester ici, moi. Ah, tu veux rester là? Non, je veux rester là. Il sort de l'eau, on le sort de l'eau. Voilà. Parce qu'il veut faire ce qu'il veut, parce qu'il sort du contexte dans lequel il doit vivre, il va. Et l'homme, il en est ainsi. À partir du moment, dès le début de la création, Dieu lui avait dit : tu ne toucheras pas de cet arbre, de ce fruit, tu n'en mangeras pas. L'homme a dit : non, moi je vais en manger. Poussé par le diable. Au moment où il en a mangé, c'est un rebelle, il a désobéi. La mort spirituelle est entrée en lui. Et c'est comme ça que l'histoire malheureuse et tragique de l'humanité a commencé. Donc le péché, c'est ça. Vous remarquez, c'est la première des choses, le premier des messages de Noël. C'est le premier ennemi, le plus grand ennemi. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle surtout pas. Les psychologues, encore moins. Le péché n'est plus un péché, c'est une faiblesse. De mauvais caractère, un complexe. Vous n'avez pas entendu des choses comme ça? Il y a même des chrétiens qui ont de tels raisonnements. Oh, c'est un petit complexe, une petite faiblesse que j'ai. Une faiblesse, c'est un péché. Ah, t'es péché, ce qui est péché, non, pas faiblesse. Tu t'en sortiras jamais si tu appelles ton péché une faiblesse. Ouais. Mauvaise habitude. Mauvaise habitude. Papa, allez, on se met la pommade. On n'ose pas dire que c'est le péché. Parce que le péché, c'est la rébellion. Et en admettant cela, on dit, c'est parce que je suis donc un rebelle. Et oui, c'est le premier pas. Oui. Il est venu pour les rebelles. Voilà la bonne nouvelle.
Oui.
Jésus est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
Je suis donc perdu. Non, impossible. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas, je suis perdu. Mais si vous dites, si vous acceptez ça, je dirai alléluia. Oh non, vous vous réjouissez du malheur des gens. Non, justement, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est ce que l'homme ne veut pas admettre. Et surtout l'homme religieux. Parce qu'il pense toujours qu'il y a quelque chose de bon en lui. N'est-ce pas vrai? Et qui a été l'ennemi le plus implacable à Jésus? C'était la religion, les pharisiens, les scribes. On va pas lire toute l'histoire. Quand les mages sont venus voir Hérode, où est le roi qui doit naître? On l'a vu sur l'étoile. Hérode était bousculé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, on l'avait appelé le roi des Juifs. C'était un Édomite, justement, d'après les commentateurs. Donc, ce n'était pas un vrai Juif. C'est un petit mélange qui est là. Et au Sénat, dans les annotations, on le voit, on lui avait donné le surnom de roi des Juifs. Et quand les mages arrivent, ils viennent de loin. Ils disent, où est le roi des Juifs qui doit être? Comment? Mais c'est moi le roi des Juifs. Mais il n'était pas légalement. Il avait usurpé ce titre. Il n'était pas content. Et Hérode, c'est un homme terrible. C'était l'homme, un des hommes les plus cruels, il y avait de quoi. Il a tué sa femme, il a tué ses enfants. Des sacrificateurs, il les tuait. C'était vraiment...
Il les massacrait.
Il les massacrait. C'était, il y a eu des choses absolument terribles. C'est pourquoi il s'est dit, ça y est, le roi arrive, et moi, où est-ce que je vais aller? Il sentait sa culpabilité. Et alors là, après, il appelait les sacrificateurs, il leur dit, où doit l'être ce roi des Juifs? Et ils ont dit, à Bethléem, en Judée. Les sacrificateurs, dans Michée chapitre 5, n'est-ce pas? Les sacrificateurs ont dit, il va naître là-bas, mais eux, ils n'ont pas été. Ils avaient la connaissance, mais ils n'ont pas obéi. Vous voyez, ils étaient religieux, mais rebelles. C'est pas le tout de savoir beaucoup de choses sur Jésus, savoir où il est né, savoir ce qu'il a fait, et être comme ces religieux, ils n'obéissaient. Et pourquoi ils n'obéissaient pas? Parce qu'à côté de la parole de Dieu, ils avaient déjà leur tradition, leur coutume. Vous vous souvenez, Jésus, ce qu'il a dit aux pharisiens? Vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Déjà, la tradition était là. Ils croyaient bien dans la Bible. Oui, c'est là. Ils disent à Hérode, c'est là, à Bethléem. Qui doit naître? Ils ne bougent pas. Parce qu'ils croyaient déjà. Ils avaient d'autres idées qu'ils avaient ajoutées. Voyez-vous, on peut croire en la Bible. Croire tout ce qui est écrit et avoir nos petites idées qu'on ajoute avec, qui annulent finalement toute l'autorité de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est la parole de Dieu, on ne peut rien ajouter ni retrancher, vous êtes d'accord avec moi? Si on y ajoute, c'est que cette parole, en Dieu que nous croyons, nous ne la considérons pas vraiment comme la parole de Dieu. Si elle est vraiment la parole de Dieu, alors nous devons faire en sorte que rien ne vienne ajouter ou se retrancher à cette parole. Alors c'est ça. Ils croyaient, mais ils étaient rebelles. Et la rébellion. Même un homme religieux, j'en reviens, même un homme religieux peut être rebelle. Et souvent ce sont même les plus rebelles, parce qu'ils sont attachés à leur religion. C'est ça la tragédie. Parce qu'on pense que on peut, par nous-mêmes encore, plaire à Dieu. On ne réalise pas qu'on est perdu. Mais si on le réalise, quelle bonne nouvelle. C'est comme si Dieu nous dit, tu réalises t'es perdu. Et au moment où on réalise qu'on est perdu, tu nous dis, je t'ai envoyé un sauveur.
Voilà.
Parce que Jésus est venu sauver ceux qui étaient
perdus.
Tant que tu, que je, ne réalise pas que je suis perdu, rebelle, ennemi de Dieu, Dieu ne peut pas me sauver. Jésus n'a aucun sens pour moi. C'est un nom dans l'histoire. C'est un nom comme ça, merveilleux, que je respecte même, mais qui n'est pas mon sauveur. Vous savez que beaucoup de gens peuvent dire que Jésus est le sauveur. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont sauvés. Le diable aussi peut dire que Jésus est le sauveur. Est-ce qu'il sera sauvé? Voyez-vous, ça ne suffit pas de dire Jésus est le sauveur, parce que le diable peut le dire. Mais quand vous dites Jésus est mon sauveur, alors là ça change. Le diable ne peut plus le dire. Est-ce que le diable peut dire que Jésus est mon sauveur? S'il le disait, il serait plus diable. Mais il ne dira jamais, parce qu'il ne veut pas. Donc croire que Jésus est le sauveur, ça ne nous sauve pas, mes amis. C'est quand on dit Jésus est mon sauveur. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai réalisé que je suis perdu. Il sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, on peut connaître beaucoup de choses. Mais ça, si on ne règle pas ce problème-là, on n'a pas réglé le problème essentiel de la vie de quelqu'un. C'est cela, c'est ce problème-là. Dieu commence par là. Les anges commencent par là. Ils mettent les priorités à leur place. Et nous, que de choses secondaires qui prennent de la place, qui nous éloignent de Dieu, nous font perdre du temps. Les choses secondaires deviennent essentielles. Et les choses essentielles, on les met de côté. Il nous faut maintenant voir les choses comme Dieu les voit, comme les anges le voient. Des priorités doivent être mises à notre place. Noël, c'est ça. Je dois mettre mes priorités à ma place. À leur place, dans ma vie. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, rien. On ne voit plus rien maintenant. Mais Dieu connaît le cœur des gens. Mm-hmm. Il sait que c'est là que ce problème doit être réglé entre l'homme et son Dieu. Et tant qu'il n'est pas réglé, l'homme sera perdu, même religieusement. Il y aura beaucoup de gens religieux en enfer. Beaucoup. La religion ne sauve personne. Si la religion sauvait, Jésus n'aurait pas eu à venir sur cette terre, t'es d'accord avec moi ? Parce qu'il y en avait déjà des milliers. Donc si la religion sauvait, il y a des milliers de religions, mais il n'y a qu'un seul évangile. N'oublions pas, un seul évangile. C'est la parole de Dieu. Alors voilà, quand gloire à Dieu, mais un tel Dieu qui est venu pour nous sauver, c'est merveilleux. Le problème, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Et quand j'ai l'humilité d'accepter cela, alors les choses changent. Alors, je comprends pourquoi Jésus est venu. Pas seulement pour avoir des bonnes guirlandes et ceci et passer un bon moment, manger ou boire, comme le monde le fait, n'est-ce pas vrai? Tant de jouissances. Mais vous parlez de Jésus, on vous met à la porte. Vous passez pour quelqu'un de déséquilibré. Mais moi, vous vous levez dans un endroit où les gens parlent. Non, mais Jésus est mon sauveur. Vous me direz un peu comment vous allez passer, quel quart d'heure vous allez passer là-bas. Je ne sais pas si vous allez pouvoir en sortir là-bas. L'essentiel, oui. On veut pas. On veut bien que les autres changent, mais on ne veut pas que nous changions. Et ces gens-là sont toujours là avec la justice dans leur bouche. Ah oui, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Ah, ils sont champions. Mais quand on leur dit, il faut commencer par vous. C'est par vous que ça commence. Si le monde va mal, c'est parce que les hommes vont mal. Ben. Et toi, tu fais partie de ces hommes. Ah ben. C'est par toi que ça doit commencer.
Exactement.
Gloire à Dieu. Dieu est venu apporter cet amour. Mm-hmm. Un amour juste. Un amour qui vient sauver les hommes. Ah, oui. Romains, il est dit dans Romains. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des
pécheurs.
Christ est mort. C'est ça, l'amour de Dieu s'est manifesté en envoyant son Fils à Noël et en mourant sur la croix à Golgotha. C'est là, non, mon péché, votre péché, méritait la condamnation éternelle et la séparation de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez les conséquences du péché ? Là encore, on amoindrit les choses. Oh, je ne sais pas, il y en a combien qui disent, moi je me dis, avec le bon Dieu là-bas, je vais bien me débrouiller avec lui. Tu ne pourras même pas ouvrir la bouche. Et tu ne pourras même pas te présenter.
Ah oui, c'est ça l'histoire.
Dieu est un lieu. Ce lieu-là est un lieu saint. C'est maintenant qu'on doit se préparer pour aller au ciel. Ce n'est pas après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le
jugement.
Donc c'est maintenant. Gloire à Dieu.
Amen.
C'est pourquoi quand on comprend qui est Dieu qui a envoyé son Fils, ce salut merveilleux, ce sera le sujet d'une grande joie. Voilà, la vraie joie, elle est là. La joie de connaître Jésus comme son sauveur, son Seigneur, comme son berger. C'est lui qui conduira son peuple, il est dit. Le verbe conduire dans le texte grec, c'est comme un berger qui conduit ses brebis. Aujourd'hui, combien de brebis n'ont pas de berger? Une brebis sans berger, je vous assure. Elle n'ira pas loin, vous êtes d'accord avec moi. Elle n'a pas de berger, mais il y aura des loups qui rôdent. Et le loup que vous avez, est-ce que le loup fait des cadeaux?
À la brebis.
Non, il vient pas vers la brebis. Oh, toi, t'es... Non, ça va, je te laisserai tranquille, toi.
Oh, oui.
Non, c'est pas comme ça que ça marche. La nature du loup est en lui.
C'est
il est là pour détruire.
Oui.
Et le diable ne fait pas de cadeaux.
Bon.
Il veut tous nous envoyer en
l'enfer. C'est vrai, ça.
Mais Jésus est venu nous délivrer. Noël, c'est Dieu qui vient à notre rescousse.
Oui.
Dans les ténèbres de ce monde, dans nos prisons, comme il a été dit, il vient, il frappe à la porte. Par sa mort sur la croix, il a brisé la chaîne qui était là, qui nous tenait. En mourant sur la croix, il a brisé cette chaîne. Comment on appelle ça?
Le cadenas.
Il a donné un coup sur ce cadenas. La chaîne,
sauté.
Tout a sauté. La porte est ouverte.
À la croix, ça a sauté.
Et il te dit maintenant, il ne va pas venir vous chercher, bien sûr. Non,
ah,
ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui devez sortir.
Oui.
Il ne va pas aller vous prendre par les oreilles ou autre et dire, tu sors maintenant? Non.
Non,
la porte est ouverte. C'est à toi de sortir.
Ah.
Ne restons plus dans cette prison du péché, de la condamnation, de nos fausses conceptions de Dieu. Sortons de cette prison-là. Il a payé la dette.
Eh, ouais.
Il a brisé les chaînes.
Il a souffert pour cela. Et il l'a fait une fois pour toutes. Il ne va pas revenir pour souffrir. S'il revient, c'est pour juger le monde après. Attention. Il ne va pas revenir encore. Bon, bien, bon. Je vous avoue, vous n'avez pas cru. Bon, je vais encore vous mourir pour vous. C'est fini tout ça. C'est le jugement. Il est venu une fois comme un agneau pour donner sa vie. Il se sacrifie pour les hommes. Mais il reviendra comme un lion. Pour juger les nations. Et tous ceux qui n'ont pas accepté son message.
Comme un juge.
Comme un juge.
Il reviendra comme un juge.
S'il n'est pas notre sauveur aujourd'hui. Un jour, il sera notre juge.
Oui, c'est ça.
Et là, il n'y aura plus de discussion possible.
Ah oui.
C'est fini après. Il n'y a plus de discussion. Il nous a laissé tant de temps, n'est-ce pas?
Ah oui.
Gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts.
Ah oui, merci.
Deuxième message, dans les lieux
très hauts.
Dieu, voyez-vous, c'est quelqu'un qui vit dans les cieux pour montrer la grandeur. Dans les lieux très hauts. Ce Dieu-là, c'est un Dieu tout-puissant. Les cieux et la terre lui appartiennent. Ce n'est pas rien du tout. Il vit. Il y a un ciel.
Oui.
Dans les lieux très hauts, il y a un ciel. Où nous, Dieu veut que nous allions. Mais il y a un enfer aussi où Dieu veut que nous n'allions pas. Mais que le diable veut nous y emmener.
C'est bien.
Combien nous devons là? Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. C'est comme si les anges voulaient dire, Jésus est venu sur cette terre pour vous emmener au ciel, là-haut, dans ces lieux magnifiques. Nous avons chanté ces cantiques, n'est-ce pas? Mais c'est le retour du Seigneur.
Oui.
C'est tellement extraordinaire. Voir un jour notre Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ineffable grâce, quel bonheur, quelle félicité. Un jour, nous le verrons dans ces lieux très hauts. Nous contemplerons sa face. Le ciel existe et l'enfer existe. Mais Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus. Il veut que tous soient sauvés. Voilà le message de Noël. Amen. Dans ces lieux très hauts, un jour où nous avons une espérance après la mort, les anges viennent nous chercher si nous sommes sauvés et nous emmènent au ciel pour toujours. Sinon, c'est les démons qui viennent et nous emmènent en enfer. Ce sont des vérités bibliques qu'on ne peut pas ignorer. On peut les ignorer, mais à nos risques et périls. La parole de Dieu est claire et nette. Ensuite, je veux un peu... Le deuxième message, c'est dans les lieux très hauts. Dieu est venu sur cette terre pour nous emmener là-haut. Alléluia. Un jour, nous le verrons. Si nous l'avons accepté comme notre sauveur, nous ne sommes pas faits, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Notre demeure, notre cité à nous est dans les cieux. Combien de gens ne vivent que pour cette terre, n'est-ce pas? Que pour cette terre. On a l'impression qu'ils ne vont jamais mourir. Vous avez entendu les catastrophes, là? Les catastrophes. Combien de gens sont morts? Je sens en vitesse, j'ai entendu des arbres qui sont tombés sur une voiture par-ci. Si morts. Vous entendez quoi? Ces gens-là pensaient qu'ils allaient mourir maintenant, à Noël, aux environs de Noël. Jamais ils s'attendaient à ça.
Mais c'est ça.
Les catastrophes sont là, mes amis. D'un jour ou l'autre, quelque chose peut nous tomber dessus. Si on n'est pas prêt aujourd'hui, nous sommes en grand danger. En grand danger. Noël, c'est un coup de clairon de Dieu.
Oui.
Il nous dit, si un jour tu ne seras pas là-bas, ce ne sera pas de ma faute.
Ah oui.
Car je t'ai préparé une place.
Ah oui.
Mon fils est mort pour toi. Pour que tu puisses contempler ma face. Et glorifier mon nom. Je t'aime, je suis descendu jusqu'à toi. Ne veux-tu pas venir jusqu'à moi? C'est ce que Dieu nous dit ce matin.
C'est vrai.
Ne repoussons pas son appel. Car un jour, comme avec l'arche de Noé, la porte sera fermée. Et vous l'avez remarqué? C'est Dieu qui ferme la porte.
Ouais.
C'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu. Mmh. Quand Dieu ferme la porte, c'est terminé. Les hommes, ils essaieront d'ouvrir, c'est terminé. Il n'est plus question de pouvoir ouvrir. Il y a un temps de la grâce qu'il ne nous faut pas mépriser ou négliger. Mais dans les cieux, il y a un espoir pour tout le monde. Le ciel, il y a rien. C'est fini, après la mort, c'est terminé. Ou c'est la réincarnation. On est réincarné dans un poisson, dans une souris. Dans un arbre, vous vous rendez compte? Et il y a même des professeurs qui croient cela. Et il y a même des professeurs qui croient cela.
Quelle folie! Et tout ça parce qu'on ne veut pas se mettre en règle devant Dieu. Parce qu'on sait qu'il faut changer, il faut s'humilier. Vous voyez à quel point l'homme est orgueilleux. Non, 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 non. Mais un jour, il s'en fasse la réalité. Mais ce sera trop tard. Et je t'ai troisième et quatrième, je ne serai pas très long. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Paix sur la terre.
Réfléchissons un moment. C'était du temps des Romains, n'est-ce pas vrai? Et en ce temps-là, j'ai lu ça dans un petit commentaire, on parlait de la Pax Romana. Vous avez entendu parler, cette Pax Romana. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la paix. Les Romains avaient apporté la paix. Pourquoi les anges viennent maintenant? Paix sur la terre, mais elle était déjà là. Qu'est-ce que le ciel voulait dire? La paix que vous avez là, c'est là une fausse paix.
C'est une fausse paix.
La paix de Rome, c'est pas la bonne paix. La paix de Rome, c'est l'épée.
Mais ce n'est pas la vraie paix. La vraie paix.
Dans l'épître aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il est dit? Quand les hommes diront
paix
et sûreté ou sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Voilà la paix des hommes. Voilà la paix de Rome. Et Rome, c'est l'Empire romain de ce temps-là. Et on est de nouveau la même chose.
On est en plein dedans.
J'ai entendu de la bouche
du président. Il faut maintenant qu'on avance dans cette communauté pour avoir la paix.
Communauté européenne.
Et la sécurité. Ouais. Exactement les mots bibliques.
Quand ils diront paix.
Et une ruine soudaine. Bien sûr, il n'a pas, pris la deuxième partie. On prend la première partie qui nous arrange.
Oui, oui.
On veut la paix, mais sans le prince de la paix.
Oui.
Le prophète dit bien, ils disent paix, 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 mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants, nous dit la parole de Dieu.
Ah, non. Allez, paix sur la terre, voilà pourquoi les anges pour nous. Attention, il y en a beaucoup qui sont dans une illusion de paix. Ne soyons pas dans une illusion de paix nous-mêmes. Oh, tout va très bien. Moi, ça va bien. Il n'y a pas de problème avec moi. Moi, j'ai la paix. J'ai la paix. Et est-ce la bonne paix? Quel genre de paix?
Si c'est une paix qui rejette le prince de la paix, vous croyez que c'est la bonne paix? Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix vient lorsqu'on se repent, qu'on se humilie, qu'on devient enfant de Dieu.
Là, à ce moment-là, on est justifié par la foi dans le sacrifice de Jésus, qui est mort à notre place, et qui en retour, lui prend sur lui notre culpabilité et nous donne en retour le pardon et sa paix. N'est-ce pas merveilleux? Paix sur la terre! Il y avait une fausse paix à ce moment-là. Il en est de même aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Combien des multitudes sont dans cette fausse paix? Ils espèrent qu'avec la communauté européenne, avec je ne sais quoi, avec l'OTAN par-ci, n'importe quoi, on pense que ça va marcher.
Mais le du prince de la paix, on n'en veut pas.
Surtout pas. Surtout pas. Quelle illusion. Et tout cela, selon la parole de Dieu, ça va finir par la catastrophe. Et une ruine soudaine les surprendra.
Tandis que si nous acceptons la paix que Jésus donne au travers d'une repentance sincère, en acceptant son salut gratuit comme un cadeau, alors on a une paix que personne ne pourra nous ravir. Que les chrétiens avaient, les premiers, et s'étaient prêts à aller jusqu'aux galères, jusqu'aux martyrs, jeter jusqu'aux martyrs, et tenir bon, parce qu'ils avaient cette paix en eux, que ni les Romains, ni personne, ne pouvaient enlever de leur cœur.
Amen. C'est merveilleux, paix sur la terre. Et je termine. Le quatrième message, c'est quoi?
Aux hommes de
bonne
volonté. On pourrait traduire aussi aux hommes qu'il agrée. Aux hommes de bonne volonté. C'est comme si les anges voulaient dire tout ce que Dieu a fait maintenant, il est fait aux hommes qu'il agrée, aux hommes de bonne volonté. Autrement dit, la paix, le salut, toutes ces choses, il faut que ça se passe selon les termes de Dieu. Selon les règles divines, pas selon vos petites idées, pas selon nos petites conceptions, nos petites religions, nos petites psychologies, nos petites idées à nous, chacun, ça peut être, on les chacun a ses petites idées.
C'est comme si Dieu disait attention aux hommes qui l'agréent,
Autrement dit, aux hommes qui acceptent les choses telles que Dieu les voit. Aux hommes de bonne volonté, dont la volonté personnelle est soumise à la volonté divine. Et voient les choses comme Dieu les voit. Aux hommes qui l'agréent. Vous voyez comme c'est important? Le ciel est là pour nous dire attention. Sur quoi bases-tu ton salut? La vie éternelle, ta vie, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que la Bible confirme ces choses? Ou alors est-ce que ce sont des idées personnelles? Tout ce qui n'est pas bâti sur la parole de Dieu sera terminé, sera détruit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, a dit Jésus, ne passeront pas. Aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui l'agréent, autrement dit, Dieu veut donner cette paix, ce pardon, cette vie éternelle, ce salut merveilleux aux hommes qui se soumettent à son évangile et qui n'essayent pas de créer un autre évangile. Parce que la Bible parle aussi d'autres évangiles, n'est-ce pas vrai? Et Dieu est extrêmement sévère avec ceux qui prêchent d'autres évangiles. Parce que cet autre évangile n'est pas le vrai évangile. Et Paul était très sévère. Parce que c'est d'autres évangiles conduit les âmes à la perdition éternelle. Aux hommes qui l'agréent, est-ce que ce que je crois est fondé? On doit faire attention. Moi le premier, chacun d'entre nous, mes amis. Parce qu'un jour, c'est cette parole qui vous jugera, qui me jugera. Ce n'est pas nos idées. On va dire devant Dieu, on va discuter un petit peu. Fermons la Bible. Ah non, non, on va juste mourir la Bible. Tu l'avais sur cette terre, qu'est-ce que t'en as fait? L'enseignement est là, j'ai enseigné. Mes disciples, mes apôtres ont enseigné. Voilà tout ce qui était écrit, qu'est-ce que t'en as fait de ça? Ah oui, mais tu sais que... Il n'y a pas de tu sais que... Pas de discussion. C'est cette parole qui nous jugera. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Voilà. Aux hommes qui l'agréent. Il ne faut pas être d'accord avec l'un avec l'autre. C'est avec le Seigneur qu'il faut être d'accord.
Oui, dans l'harmonie. Oui, oui.
Et laissez-moi dire une chose. Si vous êtes en harmonie avec Dieu, il y en a beaucoup qui vous détesteront. Ils vous persécuteront même. C'est le prix à payer. C'est par là que vous prouverez que vous aimez vraiment le Seigneur. Quand vous acceptez de souffrir à cause de lui et par amour pour lui. On vous rejettera. Mais Jésus n'a-t-il pas été rejeté lui-même? Dites-moi un peu. Il a été rejeté. Et pourquoi? À cause de lui?
Pas du tout.
À cause de chacun d'entre nous. C'est parce qu'il nous aimait. Sur la croix, nous rappelons bien de cela. Ce n'est pas les clous qu'il retenait sur la croix. Il aurait pu descendre. C'est son amour pour toi et pour moi. C'est cet amour-là. Il fallait qu'il meure en sacrifice pour le péché. Le péché méritait le jugement et la condamnation. Donc quelqu'un devait prendre cette condamnation sur lui pour qu'on soit sauvé. Il fallait que ce soit quelqu'un de parfait. C'est pourquoi Noël, c'est la naissance miraculeuse de Jésus. Jésus est né par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi il était saint. Il était Dieu et homme. Il était parfaitement homme, sans péché. C'est pourquoi il pouvait mourir pour nous, pécheurs. Et il était Dieu. En étant Dieu, il pouvait pardonner nos péchés. S'il n'était pas Dieu, personne ne peut pardonner les péchés. Quand on vous dit, dans certaines religions, je vous pardonne, tu confesses et puis je te pardonne tes péchés. C'est un mensonge. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus est Dieu. Il était homme. Parfait. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort, lui, le juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. Mais il était aussi Dieu. Et en cela, il pouvait pardonner les péchés des hommes. Aux hommes de bonne volonté, à ceux qui sont assez humbles pour reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait fausse route. Les pharisiens, les sacrificateurs, ils savaient beaucoup de choses, mais ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Hérode, ils n'étaient pas contents. Ils voulaient tout détruire, mais ça ne marche pas. Maintenant, où il est? Où il est maintenant, Hérode? Lui qui était la terreur. Je lisais de lui, il était tellement la terreur que le jour de sa mort, il a fait dire, il faut que le jour de ma mort, il y a plusieurs personnalités qui meurent avec moi. Pourquoi? Pour qu'au moins on pleure ces gens ce jour-là. Les familles pleurent sur ces personnes-là. parce qu'il savait que personne n'allait pleurer sur lui.
C'est beau,
parce qu'il avait massacré sa femme, sa mère, ses fils, des sacrificateurs, et j'en passe, c'est des multitudes. Il a dit, il faut que des hautes personnalités meurent pour que ce jour-là au moins, on pleure. Parce qu'il savait que personne n'allait pleurer sur lui. Mes amis, où il est maintenant? Considérons les choses du point de vue éternel.
Oh, oui.
Le lendemain ne vous appartient pas, ne m'appartient pas. Oh, oui, Noël, oui. C'est le moment de nous rappeler ces choses. Oui. Dans les lieux très hauts, il y a une place où Dieu nous attend. Il est venu de là-haut pour nous y emmener. Que son nom soit béni. Mm-hmm. Quatre messages essentiels des anges. Puissions-nous les recevoir. C'est la parole même de Dieu. Ils vivent près de Dieu. Qui vont tout à fait à l'encontre des messages humains, n'est-ce pas vrai?
Oui.
Et c'est là qu'il faut avoir le courage aussi. L'humilité et le courage d'accepter la parole de Dieu. Si nous acceptons cette parole nous gardera, nous protégera et sera notre victoire et notre sécurité jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Père, la vérité. Que te dire, Seigneur, quand ces anges sont venus et ont glorifié Dieu, pour eux, Dieu était l'être plus extraordinaire. En plus, il envoyait son Fils mourir pour des rebelles, des pécheurs, des ennemis. Comment ne pas glorifier ce Dieu qui en Jésus-Christ est venu donner sa vie? Il n'y aura pas d'excuse, ni de deuxième chance pour ceux qui refusent ce salut. Il n'en aura pas d'eux. Puissions-nous, Seigneur, nous mettre en règle maintenant, car ce sera trop tard après la mort, et que nous puissions aujourd'hui, maintenant, nous qui avons accepté ton salut, puissions vivre près de toi, te glorifier toujours plus, te connaître toujours plus, t'aimer toujours plus, car nous serons rejetés, nous serons persécutés. Tu as dit, le disciple sera comme son maître. Si on a rejeté le maître, on vous rejettera aussi. Mais Seigneur, tu nous as dit, tiens ferme, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Oui, une couronne nous attend là-haut. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Ne nous laissons arrêter par personne. Soyons des hommes et des femmes de bonne volonté, qui font la volonté de Dieu, non pas la volonté des hommes, qui passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen.
Seigneur, nous voulons profiter de cette occasion, chacun de nous, pour faire le point devant toi. Concernant notre propre vie, tu viens de nous rappeler, Seigneur, que les temps sont sérieux, que nous ne pouvons pas jouer avec le temps. Notre vie ne nous appartient pas, nous ne savons pas quand. Nous allons mourir ou passer de l'autre côté. Et tu nous rappelles que nous devons être prêts parce qu'aujourd'hui, tu es le Dieu qui pardonne. Mais que si nous ne saisissons pas les occasions que tu nous donnes, demain, tu seras notre juge. Seigneur, chacun de nous, nous devons refaire le point quant à sa propre vie. Seigneur, toi, tu es venu nous donner la tienne. Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion pour nous replacer devant toi. Et nous laisser sonder par toi. Seigneur, tu es notre sauveur, mais tu veux aussi être notre Seigneur. Garde-nous de continuer de vivre à notre guise, selon notre propre conception, nos propres conceptions des choses. Qui parfois sont fausses. Combien tu dis souvent que tes pensées sont au-dessus de nos pensées,
c'est vrai.
Et que tes voix sont au-dessus de nos voix, et que tes voix sont parfois mystérieuses, même quand nous marchons avec toi, Il y a des choses que nous ne comprenons pas parfois, Seigneur. Nous voulons aussi te le dire, mais tu as dit nous que nous pouvions tout te dire. Et quand nous avons un fardeau, un poids, une souffrance dans notre cœur, nous pouvons aussi te le dire. Nous pouvons venir à toi avec nos péchés, nous pouvons venir à toi avec nos souffrances. Et tu nous reçois toujours. Nous avons toujours audience auprès de toi. Tu es notre Dieu. Puisses-tu être notre roi et Seigneur de nos pensées, de nos vies. Pour cette année qui vient aussi, Seigneur. Nous ne savons pas si ce sera la dernière. Pourquoi pas, pour certains d'entre nous. Seigneur, nos vies ne nous appartiennent pas. Nous pensons toujours la mort, c'est pour les autres. Qu'en savons-nous? Quand notre dernière heure arrivera, puissions-nous être tous prêts à te rencontrer, Seigneur. Car aujourd'hui, tu nous tends la main. Aujourd'hui, tu as ouvert ton ciel.
Amen.
Ton ciel est ouvert.
Oui.
C'est nous qui pouvons être dans une prison avec une porte fermée et ne pas avoir accès à cette porte grande ouverte dans le ciel. Parce que nous refusons de sortir de notre prison, notre rébellion, notre propre volonté, notre péché qui nous maintient captifs. Seigneur, louange à toi. Tu nous donnes une occasion aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Quand tu nous parles, nous voulons écouter ce que tu nous dis, c'est tellement sérieux. Nous t'aimons, Seigneur.
Oui.
Nous te remercions pour ton amour à notre égard. Noël, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui veut se réconcilier avec sa créature, avec nous. Seigneur, louange à toi. Alléluia. Et je voudrais donner ces quelques paroles justes que le Seigneur m'a données pour une personne au milieu de nous qui se trouve dans une situation particulièrement douloureuse. Le Seigneur connaît chacune de nos situations et il veut donner une parole de consolation. Mon enfant, mon grand amour pour toi, te dit le Seigneur, peut calmer la douleur la plus grande de ton cœur et de ton esprit. Je suis là près de toi, te dit le Seigneur, particulièrement dans les situations les plus éprouvantes de ta vie. Ton cœur est comme déchiré par cette douleur qui est la tienne aujourd'hui. Rappelle-toi, mon enfant, que quand l'épreuve est là, tu peux crier à moi et obtenir le secours dont tu as besoin auprès de moi. C'est mon amour inaltérable pour toi qui te libérera en toutes circonstances. Et c'est à l'école de l'épreuve que tu apprends le mieux la leçon de l'importance de te confier en moi, te dit le Seigneur. Seigneur, même si nous passons parfois par des moments difficiles que tu permets dans notre vie, nous savons que nous avons quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui veille sur nous, quelqu'un qui pense notre blessure. Merci Seigneur de penser nos cœurs brisés. Seigneur, merci Jésus.
Oui.
Nous comptons sur ton amour, ta grâce, l'attouchement de ta main, Seigneur. Sur les cœurs brisés. Voici, je suis venu guérir les cœurs brisés. Si tu as une souffrance profonde, laisse le Seigneur toucher cette souffrance et la guérir, la cicatriser. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Une personne qui s'étonne de ce qui se passe dans sa famille. Mon enfant, je t'aime profondément. Et entends chacune de tes prières. Je ne te donne pas toujours exactement ce que tu me demandes. Étant donné que je peux faire au-delà de tout ce que tu me demandes, et même au-delà de ce que tu penses, mais tu peux être certain que si je n'exauce pas toutes tes requêtes, c'est parce que je veux te donner quelque chose d'encore mieux. Ne te décourage pas quand tu ne reçois pas tout ce que tu m'as demandé. Je t'aime et j'aime combler tes désirs. Mais je connais aussi l'issue de toute chose. Et quand je refuse de te donner quelque chose, c'est parce que j'ai mieux à t'offrir. Quand tu seras dans mon ciel de gloire, tu verras que finalement, j'avais quand même exaucé tes prières, mais pas de la façon que tu l'aurais désiré, mais bien au-delà de tes espoirs et de tes rêves des plus grands. Seigneur, tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Tu es la sagesse même. Et quand tu dis non à quelque chose, c'est parce que tu es encore mieux devant nous.
Amen.
Tu es encore meilleur devant nous.
Oh, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et nous nous inclinons devant ta sagesse majestueuse et parfaite. Tu ne fais pas d'erreur, Seigneur. Jamais. Tu es le Dieu parfait. Toute la perfection est en toi. Et puis, une parole que le Seigneur veut adresser particulièrement à Véronique, parce que le Seigneur t'a confié, Véronique, l'intercession d'une façon précise et qu'il confirme souvent. Il répond à tes intercessions. Et voici ce que le Seigneur te dit. Tes prières d'intercession sont très importantes pour moi. Elles sont encore plus importantes pour moi quand tu as toi-même tes difficultés. Tu m'honores beaucoup lorsque tu pries et que toi-même, tu ne te sens pas bien à cause des difficultés et des peines que tu éprouves dans ta propre vie. Ne laisse jamais les circonstances interrompre ta vie de prière. Les membres de ta famille, ainsi que les personnes que te mets à cœur, ont besoin de ton intercession. Quels que soient tes problèmes, prie encore et toujours pour ceux et celles que je place sur ta route. Ne pense pas que parce que je connais toutes choses, que tes prières ne sont pas nécessaires. Il est vrai que je connais chaque situation, passée, présente et future, mais pour toi, lorsque tu pries, n'est-ce pas un réconfort simplement d'être consciente que je répondrai à tes prières en connaissance de cause et que dans mes réponses, il n'y aura pas d'erreur, pas d'imperfection. Ton Père Céleste sait exactement ce que chacun a besoin. Je connais aussi chacune de tes pensées et de tes désirs. Je connais aussi chacune de tes voix, chacune de tes craintes, de tes frustrations. Je connais aussi chacun de tes ennemis qui font la guerre à ton âme, de l'intérieur comme de l'extérieur. J'aime et je prends soin de chacune de mes brebis avec tendresse. Et particulièrement aussi de toi, ma fille, te dit le Seigneur. Seigneur, merci. Toi, tu connais exactement ce qui se passe dans notre cœur. Et quand tu nous parles, tu viens mettre ton conseil, ton baume, ta douceur, ton amour dans notre cœur. C'est beau de te connaître, c'est beau de te suivre, c'est beau de t'avoir pour ami, pour maître, pour conseiller, pour père, pour sauveur, pour seigneur. Que de titres à te donner. Nous n'avons même pas assez de mots en français pour te donner tous les titres dont tu es digne, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Et maintenant à nous, tous ces enfants, pour cette année qui vient, le Seigneur voudrait nous encourager et nous dire de ne pas avoir peur de l'année qui vient. Mon peuple, jamais je n'ai délaissé, jamais je ne délaisserai celui qui se confie en moi. Si vos circonstances vous oppresse, je demeure pour vous un appui inébranlable. Je suis bon et fidèle pour chacun de mes enfants et je les garde dans ma main, quelle que soit leur situation. Je les comble de mes bienfaits et de ma présence lorsqu'ils se confient en moi. Je connais mieux que vous-même, dit le Seigneur, chacun de vos besoins, chacune de vos situations. Je suis plein de tendresse pour chacun de vous. Plus le mal vous oppressera, plus je me tiendrai près de chacun de vous. Cherchez à vivre de plus en plus près de moi, et votre assurance, votre sécurité, votre confiance en moi grandiront, et mon nom n'en sera que davantage glorifié dans votre vie. Je garde dans une paix parfaite celui qui garde les yeux fixés sur moi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, je lui assure la paix. La paix parce qu'il se confie en moi. J'aplanirai toujours le sentier du juste. Mes enfants, souvenez-vous toujours que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de vous. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Je suis et serai toujours fidèle à mon alliance avec vous, mes enfants. Soyez donc en paix, car votre paix est liée à votre connaissance de ma fidélité. Merci, Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur. Tellement grand. Nous ne voulons pas nous aventurer dans cette nouvelle année sans toi. Ta protection nous est précieuse, ta fidélité nous est précieuse, ta puissance nous est précieuse, ton amour nous est précieux, Seigneur. Que ferions-nous sans toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui transformes les êtres et les circonstances, qui change tout, Seigneur. Ô, louange à toi, et tu es vivant au milieu de nous. Tu ne nous délaisseras jamais. Louange à toi, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous t'aimons. Puisses-tu trouver cette même fidélité, ce même engagement de notre part à ton égard aussi. Cette réponse que tu attends de nous aussi. Et nous voulons te dire, Seigneur, c'est avec toi que nous voulons nous engager dans cette année. Nous ne voulons pas faire notre volonté. Nous ne voulons pas faire selon nos désirs, nos propres pensées. Mais si nous voulons nous en remettre à toi, tous ensemble. Tous ensemble d'un même cœur, avec toi, Seigneur. Nous t'aimons. Amen.
Amen. Seigneur, combien je veux te remercier, parce que c'est vrai, je suis encore étonnée, Seigneur, de voir à quel point tu connais nos pensées, à quel point tu réponds aussi à toutes nos questions, et tu donnes des réponses, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, j'avais vraiment besoin que tu me reconfirme ces choses, Seigneur. Je les ai reçues dans mon cœur depuis très longtemps. Ouais. Ça a été confirmé plusieurs fois, mais je ne savais plus très bien où j'en étais. Seigneur, tu viens reconfirmer encore une fois ces choses dans mon cœur. Je te remercie, Seigneur, parce que pour moi, c'est un réconfort. Et j'avais besoin, Seigneur, que tu renouvelles mon zèle pour toi et que tu confirmes ces choses dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur.
Oh, merci. Merci. Merci.
Je suis tellement touchée par ton amour. Je suis tellement touchée de voir que tu vas au plus profond de notre cœur, au plus profond de nos aspirations. Et Seigneur, tu connais tout de nous, Seigneur. Et, Seigneur, je te remercie pour ta réponse. Amen.
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 Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant.